BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Beaucoup de choses ce soir encore dans l'actualité. D'abord, on le sentait un petit peu venir et puis c'est officiel, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, sera débarqué après les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il fait les frais ? Bien possible quand même de cet accord en interne, vous savez, sur l'aménagement des quins de carrière qui a ulcéré Bruno Le Maire. On va bien sûr en reparler dans un instant. Et puis avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure, bien sûr.
Et oui, alors on va aussi parler de la fin de la visite officielle en France du président chinois. Ça s'est terminé par un déjeuner en altitude dans les Pyrénées, alors qu'il n'a pas permis de tout régler. Mais on a quand même avancé sur certains sujets commerciaux. On en parlera tout à l'heure. On parlera aussi de Boeing, qui est de nouveau dans la tourmente, tout comme Donald Trump, toujours aux prises avec la justice. A-t-il une chance de l'emporter en novembre prochain? Réponse dans un instant.
Une bonne question. Alors, qui sera avec nous ce soir? Ben, là, il nous arrive des États-Unis justement, donc oui. Il nous sera un petit peu notre envoyé spécial ici, l'entrepreneur Denis Jacquet. On sera avec Isabelle Bordry, la cofondatrice de Rétinci, et Emmanuel Kessler, bien sûr, qui va revenir. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h, évidemment.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc c'est la grande question ce soir, le patron de la SNCF a-t-il fait les frais de cet accord conclu récemment, vous savez, en interne sur les fins de carrière? Jean-Pierre Farandou, en tout cas c'est officiel, sera remplacé après la fin des Jeux Olympiques. Il se trouve qu'il était auditionné tout à l'heure devant le Sénat et il l'a répété là, clairement, pour lui c'est un accord qui n'a mais absolument rien de scandaleux, écoutez.
C'est un bon accord qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées. Son coût est raisonnable, avec de vrais bénéfices pour l'entreprise. Il ne coûtera rien, ni aux contribuables, ni aux clients, ni aux caisses de retraite. Il existait depuis 2008 et sa renégociation a été initiée à la demande des pouvoirs publics et conduite en responsabilité et en transparence. Je m'engage devant vous à compenser le coût, sans le répercuter bien sûr sur le prix des billets, et à préserver les marges de l'entreprise.
Voilà Jean-Pierre Farandou à quelques instants devant le Sénat. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Guillaume.
Il l'a un peu en travers de la gorge parce qu'on sent qu'il l'a vraiment défendu ardemment son accord là, Jean-Pierre.
Il s'est défendu bec et ongle devant les sénateurs. C'est bien le gouvernement, c'est Matignon. C'est Matignon qui m'a demandé de négocier cet accord en fin de carrière. J'ai des membres de l'État qui sont au conseil d'administration, a dit Jean-Pierre Farandou. Je ne comprends pas ces opacités. Cet accord, il va coûter à la SNCF 35 millions d'euros et en fait, dit Jean-Pierre Farandou, c'est une goutte d'eau. Moi, j'ai un résultat net d'1,3 milliard. J'ai tout à fait les moyens de financer ça. Jean-Pierre Farandou, on a profité évidemment pour défendre son bilan, puisqu'il avait appris une heure avant, deux heures avant qu'il était éconduit, qu'il ne retournerait pas qu'il ne serait pas le futur PDG de la SNCF. Donc, bilan bon, traversée de la crise Covid, dialogue social apaisé, trois exercices successifs dans le vert, donc 1,3 milliard de résultat net, 2,5 milliards de cash flow libre, du nouveau matériel, la rénovation du réseau qui se poursuit. Et d'ailleurs, son bilan, c'était presque surréaliste, a été très largement salué par les sénateurs qui lui ont vraiment tressé des lauriers et qui ont largement critiqué sa non-reconduction. Des sénateurs qui ont parlé de brutalité gouvernementale, de véritable camouflet. Vous en avez certains qui ont étrillé Bruno Le Maire. Venez au Sénat parce qu'il n'y a pas de limite d'âge, dit un des sénateurs à Jean-Pierre Farandou. C'est vrai que Jean-Pierre Farandou va avoir 67 ans et la limite d'âge est fixée à 68 ans. Et il y a quelques minutes, c'était Bruno Le Maire qui était auditionné, cette fois-ci, devant les députés, je vais y arriver, merci. Et que nous dit Bruno Le Maire? Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit la semaine dernière. Il s'en expliquera dans mon bureau, mais ça n'enlève rien à la qualité de son travail. C'est une question de limite d'âge. Le gouvernement est reconnaissant. Ne mélangeons pas tout.
Bon, voilà, donc Jean-Pierre Farandou qui sera remplacé par qui on ne sait pas encore, bien sûr, après la fin des Jeux Olympiques, donc dans quelques mois. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et puis on parle de tout ça, bien sûr, jusqu'à 20h avec nos experts sur BFM Business. Sinon, c'est Apple qui fait l'actualité ce soir. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Oui, parce qu'Apple vient de répondre à ceux qu'il trouvait trop discrets sur l'intelligence artificielle. Apple vient de présenter sa nouvelle puce conçue pour équiper ses nouveaux matériels. Est-ce que ce qui a été présenté va suffire à rattraper Microsoft, Google, Samsung et compagnie, Frédéric?
Alors, c'est présenté au milieu de tout un ensemble d'offres. C'est pas l'annonce Apple, n'oublions pas qu'elle... Mais là, Apple, que rappelle Apple? Apple dit, n'oubliez pas, je suis avant tout un constructeur. Il le rappelle à l'occasion de cette conférence qui était donnée surtout pour présenter tous les nouveaux iPads, les iPad Pro qui n'avaient pas été changés depuis 2018, les nouveaux iPads qui n'avaient pas été changés depuis 2022, donc il y a plein d'innovations dans tous les sens. Et puis donc, il nous a dit, certains d'entre eux vont être équipés de cette nouvelle puce M4. 4. Tout le monde était un peu surpris parce qu'on pensait qu'elle allait plutôt être destinée aux iMac notamment, et puis non, mais elle arrive. Donc Apple s'engage sur le matériel. Donc c'est une puce qui a priori est deux fois plus puissante que la puce précédente. Elle consomme deux fois moins d'énergie et surtout elle a dans son cœur des GPU, vous savez, ces fameux processeurs qui sont dédiés à l'intelligence artificielle générative. Donc elle va pouvoir accueillir des requêtes d'intelligence générative. Elle est designée par ARM, elle va être produite par TSMC sur du 3 nanomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être extrêmement fine aussi. Donc là, Apple est en train de préparer le terrain. On sait qu'il y a sa prochaine conférence, on en parlera dans Tech & Co, la WWDC, c'est le 10 juin, où là, Apple doit présenter son nouvel iOS, le nouvel système qui équipe tous ses équipements mobiles. Et peut-être là, on verra quelques prémices de cette IA générative. En tout cas, voilà, Apple commence à donner un peu de la voix sur l'IA générative.
Et voilà, Apple donc qui lance la contre-attaque. Merci beaucoup, Frédéric. On apprend que TikTok et la maison mère de TikTok, ByteDance, les Chinois vont porter plainte contre les États-Unis, contre l'administration américaine. Vous savez, cet ultimatum qui avait été adopté fin avril, qui oblige ByteDance à vendre TikTok dans un délai de 12 mois, faute de quoi l'application utilisée quand même par 170 millions d'Américains, cette application TikTok, pourrait être interdite sur le sol américain, tout simplement. 19h06, Xi Jinping a donc achevé sa visite en France. Ça s'est terminé par un déjeuner en altitude dans les Pyrénées, qui n'a pas permis de régler tous les différends. Il y a quand même eu des bonnes nouvelles pour la filière porcine, notamment. Le secteur sourit après la conclusion d'un accord. L'autre secteur qui se porte bien ce soir, c'est celui des spiritueux. Belle journée en bourse pour les titres Rémy Cointreau et Pernod Ricard. Pourquoi? Parce qu'hier, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'une ouverture concernant la taxation douanière chinoise sur le cognac. Écoutez ce que nous en disait tout à l'heure Julien Kistrebert chez Monségur Finance.
C'est récurrent en Chine, sur le cognac, c'est un élément de pression relativement fort et il y a une réaction. Après, la réaction, quand vous avez une hausse de 4-5%, lorsqu'on connaît le poids de la Chine, par exemple, chez Rémy, c'est un quart du business. Et ce qui m'intéresse quand même dans le marché, c'est que vous avez le secteur automobile qui est plus en souffrance. Cognac, c'est à peu près 1,5 milliard en Chine. La France, le secteur automobile, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont concernées. Donc, il ne faudrait pas qu'on oppose aussi le secteur automobile avec le cognac.
Oui.
Parce que là, le marché, cette réaction, on peut se poser la question de savoir si oui ou non, on ne serait pas dans... écoutez, lâchez un petit peu sur le cognac, on lâchera un petit peu sur le secteur automobile.
Voilà, Frédéric Rosier chez Mirabeau tout à l'heure dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Bonne nouvelle pour EDF, l'autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert pour la mise en service du futur EPR de Flamanville, le fameux. C'est une étape importante, mais rappelons que le lancement progressif de cet EPR est censé débuter dans le courant de cet été, avec 12 ans de retard sur le calendrier initial. Ça ne s'arrange pas pour Boeing. On a appris tout à l'heure que l'autorité américaine de régulation aérienne allait ouvrir une enquête pour déterminer si le groupe avait bien effectué ou effectué correctement des inspections qui étaient requises sur ces fameux 787. On parle évidemment du Dreamliner. Une bonne nouvelle pour Natixis, l'amende qui lui a été infligée, vous savez, par la justice pour sa commission de crise lors de l'affaire des subprimes, cette amende a été réduite. La Cour d'appel de Paris l'a ramenée de 7,5 millions d'euros à 2 millions seulement, si l'on peut dire. Et puis dans le secteur de la joaillerie, grosse acquisition aujourd'hui pour Richemont qui rachète l'italien Vhernier pour un montant non communiqué. Pauline Tadevin nous raconte ça.
Créé il y a 40 ans par une artiste passionnée de gemmes dans la ville piémontaise de Valenza, réputée pour son savoir-faire en orfèvrerie, Vhernier se distingue de ses concurrentes par des créations singulières, sculpturales et colorées. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé. Pour les analystes de Bernstein, le chiffre d'affaires de Vhernier est compris entre 50 et 100 millions d'euros. C'est une acquisition petite mais positive d'après ces analystes qui voient cette maison indépendante comme l'une des pépites du secteur. Dans une note, il salue la capacité de Richemont à faire changer d'échelle les marques comme il l'a fait depuis 5 ans avec une autre maison italienne, Buccellati, ou il y a 25 ans avec Van Cleef & Arpels qui représente aujourd'hui 20% des ventes totales du groupe. Vhernier, que des rumeurs voyaient ces derniers mois tomber dans l'escarcelle de Kering, est donc une carte en plus dans la main de Richemont sur un marché de la joaillerie compétitif qui pèse désormais près de 30 milliards d'euros d'après un récent rapport de Bain & Company.
Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business, 19h10. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture, très belle clôture ce soir pour la Bourse de Paris, le CAC 40 qui grappille, allez, arrondissons à 1%.
8075 points ce soir à la clôture. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
On ne voulait pas d'arrondir de 0,99% à 1%. Non. Ça va, c'est, voilà. C'est une belle performance. Et à Wall Street, comment ça se passe pendant ce temps?
C'est du vert également, avec un Dow Jones qui est bien parti pour signer sa cinquième séance dans le vert. Plus 0,2% à la porte des 39 000 points. Plus 0,3% pour le S&P à 5002, quand le Nasdaq, de son côté, gagne également 0,2%. Avec pour autant des titres qui prennent des bouillons assez conséquents aujourd'hui. Quand vous regardez Tesla qui perd plus de 3% avec des ventes en Chine, d'après les données officielles chinoises, qui baissent de 20% le mois dernier. C'est bien la preuve que les constructeurs automobiles en Chine sont de plus en plus fort. Vous avez Disney qui perd 10%. Alors pourtant, les résultats sont au-dessus des attentes. Les parcs, je ne sais pas si vous essayez d'aller à Disneyland Paris, mais c'est complet tous les jours. Aux États-Unis, pareil. Un groupe qui revoit à la hausse ses objectifs, mais sur la partie streaming Disney+, le groupe dit on va gagner moins d'abonnés dans le deuxième trimestre. Forcément, vous ne pouvez pas faire 30% de croissance à chaque trimestre, donc ça se normalise. Et ça, le marché ne l'apprécie pas. Et vous avez Disney qui perd un peu plus de 10% ce soir. Et puis enfin, Apple, bien sûr, qui fait encore l'actualité aujourd'hui avec sa keynote, de nouveaux iPads, une nouvelle puce, notamment pour l'intelligence artificielle, et cette valeur qui prend 0,2%. Voilà les trois valeurs qu'il faut retenir aujourd'hui aux États-Unis. Le tout donc dans une tendance positive avec trois indices américains qui sont toujours proches de leur record historique.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business, 19h12. On revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. Encore beaucoup de choses ce soir. Jean-Pierre Farandou donc débarqué. Est-ce qu'il paye cet accord en interne conclu la semaine dernière avec les syndicats sur les fins de carrière? On posera la question. Puis plein d'autres choses. Xi Jinping qui achève sa visite en France. Visite pour rien ou pas grand-chose peut-être. Et puis, je vous disais un mot de Boeing. On parle un petit peu de Boeing qui les accumule, que ce soit sur le 787 ou le 737. Où va l'entreprise Boeing? On posera la question à nos experts, entre autres, bien sûr, jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
Allez, bientôt 19h15, on est reparti avec nos experts jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, qui nous accompagne, et nos experts. Emmanuel Kessler qui reste avec nous. Rebonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Qui nous accompagne jusqu'à 20h. Isabelle Bordry qui nous rejoint. Bonsoir Isabelle, bienvenue.
Bonsoir.
Co-fondatrice de Rétinci. Et puis Denis Jacquet, entrepreneur français basé en Floride, patron de Top Crime qui va arriver dans un instant, qui n'a plus l'habitude de Paris, de la région parisienne, des Bouchons. On perd la notion des choses quand on quitte la France.
Et surtout à l'approche des JO. Ça se complexifie.
Me dépose. Non, c'est une chanson.
La notion du temps passé en voiture.
Exactement, voilà, on perd un peu cette notion quand on vient à Paris. Mais il va arriver Denis Jacquet. Bon, il va arriver pour parler avec nous de l'actualité. À commencer par cette nouvelle qui nous est parvenue en fin de matinée. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui va donc partir juste après les Jeux Olympiques, c'est le gouvernement qui l'a annoncé ce matin.
Et oui, alors il paye peut-être l'accord conclu récemment avec les partenaires sociaux sur les fins de carrière qui a tant irrité Bruno Le Maire. On en a parlé sur ce plateau. En tout cas, il se trouve que Jean-Pierre Farandou était auditionné cet après-midi au Parlement et il a pris soin, bien sûr, de défendre l'accord en question. On écoute.
C'est un bon accord qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées. Son coût est raisonnable, avec de vrais bénéfices pour l'entreprise. Il ne coûtera rien, ni aux contribuables, ni aux clients, ni aux caisses de retraite. Il existait depuis 2008 et sa renégociation a été initiée à la demande des pouvoirs publics et conduite en responsabilité et en transparence. Je m'engage devant vous à compenser le coût, sans le répercuter bien sûr sur le prix des billets, et à préserver les marges de l'entreprise.
Compliqué, parce que Jean-Pierre Farandou explique que c'était un accord qui a été commandité par le gouvernement, dont Bruno Le Maire fait partie, que par ailleurs, il rappelle que c'est un accord qui ne coûte pas grand-chose, 35 millions d'euros, au vu d'un résultat net d'1,3 milliard. Pourquoi est-ce qu'on lui coupe cette branche sur laquelle il est assis? Alors bien sûr, il va avoir 68 ans et il y a une limite d'âge, mais est-ce que c'est vraiment ça le sujet, Isabelle Mandry?
Je pense que c'est effectivement un mauvais procès et qu'on est plus dans une espèce de guérilla entre ministres. Le ministre des Transports, en fait, reporte et sous tutelle de Christophe Béchu, qui s'occupe de la transition écologique et des collectivités territoriales. Il n'est donc pas sous la tutelle de Bruno Le Maire. Et peut-être que, effectivement, Bruno Le Maire en a pris ombrage ou de manière assez maladroite, je trouve, à monter en épingle ce sujet, puisque lorsqu'on voit les chiffres, effectivement, c'est assez dérisoire. Et cet accord s'explique en plus. Les chiffres, la masse de personnel, c'est 10 milliards. Ouais. Donc, augmenter de 35 millions, c'est quand même pas grand-chose. Et en plus, ça s'explique dans la continuité de la réforme, puisque toute l'idée, c'était de dire, après 60 ans, comment les salaires sont revalorisés, remettre un échelon. Et puis, pour les métiers les plus pénibles, pouvoir faire des reconversions. Donc c'est assez logique et assez naturel. Donc je pense que c'est un mauvais procès, c'est un procès politique. Et une nouvelle fois, je trouve que le maire a été assez maladroit.
Il était maladroit, mais il y avait toujours cette idée, c'était l'argument de le maire. On vient de voter une loi sur la réforme des retraites qui oblige à travailler tout le monde. Et là, il passe entre les mailles du filet. C'est comme ça que Bruno Le Maire a présenté
la chose. Je partage l'avis d'Isabelle, mais je pense que c'est lié au caractère très politique de cette entreprise, la SNCF. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas. Au fond, Jean-Pierre Farandou a fait une excellente audition aujourd'hui. Il a été très approuvé par les sénateurs.
Il a été applaudi, oui.
Mais il a été, dans son argumentation, extrêmement convaincant, extrêmement solide. Et au fond, on a un patron d'une société anonyme. Il faut rappeler que la SNCF a changé de statut, qui a parfaitement joué son rôle, qui a informé son actionnaire. Et vous l'avez dit, l'actionnaire lui-même avait encouragé à des discussions post-réforme des retraites pour aménager les fins de carrière. Et donc, d'un point de vue managérial, du point de vue de dirigeant et de gestionnaire, il n'a absolument rien à se reprocher. Et comme vous le dites, d'ailleurs, cet accord, c'est 0,15% de la masse salariale la partie qui fait polémique. Il dit d'ailleurs, si on voulait le reporter sur les billets, ça ferait 80 centimes par billet. Vous imaginez bien qu'on va, ça n'a pas de sens. Et effectivement, c'est tout à fait finançable via les bénéfices de la SNCF. Mais voilà, c'est la SNCF, c'est l'entreprise la plus médiatisée de France, c'est l'entreprise qui parle le plus aux Français, et donc tout de suite, ça a pris une tournure politique. Peut-être le président a un peu sous-estimé, d'un point de vue de la communication externe, cette dimension politique qui fait qu'on est dans l'irrationnel, alors que ça, la mesure qu'il a choisi de négocier et qui a obtenu l'accord de 4 syndicats est parfaitement justifiée dans une entreprise dont il a très bien expliqué cet après-midi que 2 salariés sur 3, 2 cheminots sur 3 sont concernés par la pénibilité. Et il l'a raconté parce que c'est un homme du train. Farandou, il a fait toute sa carrière ce que c'est que la pénibilité quand on doit se réveiller à 2h du matin pour aller conduire un train. Quand on fait ce qu'on appelle des découchés, qui fait qu'on ne rentre pas chez soi. Donc on ne se rend pas compte, nous, quand la SNCF, c'est une entreprise qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc la question de la pénibilité, elle est réelle et elle est différente de ce qu'elle est dans beaucoup d'autres entreprises.
C'est rarissime, il avait réussi à obtenir la signature des 4 syndicats représentatifs, ce qui est quelque chose d'assez rare, d'assez exceptionnel.
Mais alors justement, parce qu'en fait, il ne vient pas du Sérail, et c'est assez rare pour être souligné, et donc il y avait une acceptabilité, en tout cas, de Jean-Pierre Farandou au sein de la SNCF, comme jamais il n'y a eu précédemment.
Il vient du Sérail des cheminots.
Des cheminots, c'est ça.
Il a commencé chef de gare, et je pense qu'il a été très apprécié.
Et on voit bien qu'il connaît tout, hein. On l'a vu cet après-midi, dans les moindres détails. Je ne dis pas que ses prédécesseurs n'avaient pas de compétences, parce que quelqu'un comme Guillaume Pépi est très bien rentré dans le costume du cheminot. Mais c'est vrai qu'il y avait cette particularité, il y a encore, puisqu'il est au moins là jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, de Jean-Pierre Farandou, que c'est vraiment un homme de la SNCF.
Voilà, et d'incarner l'ascenseur social.
Denis Jacquet, entrepreneur français basé en Floride, qui repasse de temps en temps en France. Quand vous venez,
on parle un peu des mêmes sujets
qui reviennent quand vous venez finalement, Denis.
On trouve une espèce de régularité dans l'actualité française, mais... Bon, alors pour jouer le méchant sur le plateau, je veux dire, il n'y a pas un cheminot qui va me faire pleurer aujourd'hui sur la pénibilité quand il y a des agriculteurs qui ont bossé toute leur vie 80 heures par semaine et qui ont 600 euros de retraite par mois. Ça ne me fait pas pleurer un cheminot.
Mais c'est un autre sujet.
À 2 heures du matin. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est un sujet d'injustice sociale. C'est pas un sujet de savoir si ça coûte. À un moment donné, les sommes, quelles qu'elles soient, coûtent plus cher que les principes. Le principe ici, c'est qu'à un moment donné, il y a une logique syndicale qui s'engraisse à son seul profit et qu'on laisse prospérer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les syndicats ont besoin de consolider leur base, obtiennent toujours plus pour des gens qui ont déjà beaucoup plus que tous les autres salariés de France. Trouvez-moi quelqu'un qui a plus qu'un cheminot, que quelqu'un de la RATP, de quelqu'un de la Banque de France, qu'un contrôleur aérien, ça n'existe pas.
Donc à un moment donné, en début de carrière, enfin début.
Ouais, donc ça permet effectivement de consolider sa base. Soi-disant parce que ils font grève pour tous ces Français qui ne peuvent pas faire grève. C'est vrai que nous, dans nos entreprises, s'ils font grève, on les abat sur place. On connaît notre degré de méchanceté. Donc ça a pas de sens. Donc à un moment donné, à chaque fois qu'une entreprise de cette nature, qui peut faire le journal de 20 heures en disant on est encore en grève et on bloque tout le monde, on est prêt à tout céder. Donc c'est ça, moi, que je retiens surtout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où il y a une entreprise qui a une capacité de nuisance, on dit oui. Et on dit oui, que ce soit 40 millions, 400 millions, 4 milliards, c'est toujours une insulte faite au reste des Français, à ceux qui souffrent beaucoup plus qu'eux. Qui est-ce qui a plus qu'un cheminot en France? Ils conduisent un train 2 jours, ils sont au repos 3. Mais enfin, je veux dire, moi, je veux bien être conducteur dans ces conditions-là. Si j'avais le 10e en tant qu'entrepreneur des avantages des cheminots, mais je m'inscris tout de suite comme cheminot, il n'y a aucun problème.
Non, donc, je pense que vous caricaturez.
Non, je caricature pas parce que c'est ce qui se passe en France.
Et par ailleurs, vous ignorez le fait que...
C'est par manque de courage politique de dire que dès qu'il y a une nuisance visible, on cède tout.
Et là, c'était pas le cas.
C'était le cas parce qu'il y avait un début de menace sur les arrêts pendant les week-ends prolongés, etc.
Non, il a été bien expliqué que il est circonscrit à certaines situations qui sont les fins de carrière. Et par ailleurs, ça n'est pas vrai que la SNCF n'évolue pas et que ça reste une caste de privilégiés qui est à part de la société, puisque il y a eu un changement de statut et que tous les nouveaux cheminots ne sont plus embauchés au statut de la SNCF, ce sont des salariés.
Mais heureusement, j'allais dire, mais ça va, moi, ça m'a des décennies.
Oui, heureusement, Emmanuel.
Voilà. Mais en même temps, vous n'allez pas passer d'un statut
pro. Le régime spécial s'éteindra quand le dernier salarié au régime spécial.
Oui, mais ça bouge.
Et la deuxième chose, par contre, c'est l'hypocrisie, parce que effectivement, dire que tous ceux qui savent comment fonctionne un ministère, une tutelle, etc., savent très bien ce qu'ils étaient en train de négocier. Donc, je veux dire, faire sauter un fusible de cette façon en disant. Le méchant, il a négocié dans notre dos.
Oui, mais ça veut forcément dire qu'ils ont quelqu'un d'autre à placer.
Par ailleurs,
Renaud Lumière est plus...
Maintenant, je pense qu'il y a un vrai sujet. Maintenant, il y a un vrai sujet, c'est le prix des billets. Et là où Farando, je trouve, ne donne pas d'explication suffisamment claire, autant je trouve que les 35 millions, ce n'est pas un sujet. Autant aujourd'hui, le prix des billets, dont les Français prennent de plus en plus le train, et les prix des billets sont excessifs aujourd'hui. Alors Farandou explique que c'est justement le yield management et il explique qu'il fait comme toutes les sociétés.
On nous a vendu il y a deux ans une refonte de la grille qui n'a jamais...
Voilà, la seule chose, c'est que les 270 000 salariés de la SNCF ont droit à des billets gratuits, sans aucune contrainte des horaires de train, à la différence d'Air France, du personnel d'Air France, etc. Et donc, quand vous avez des trains directs inouïs, excessivement chers, parce que vous prenez vos billets un petit peu tardivement, je voudrais savoir combien il y a de gens dans cette même rame de trains qui ont des billets gratuits. Et ça, c'est un chiffre qui ne sort jamais.
C'est-à-dire bon, c'est vrai qu'on n'en parle jamais.
Du billet, du prix moyen par rame de TGV, de gens qui ont payé, vous ne le trouvez nulle part. Ou le nombre de billets gratuits ou de voyages gratuits, vous ne le trouvez nulle part.
En première, en plus.
Et donc ça, c'est... Et en première aussi. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et ça, je pense que ça serait un vrai sujet pour Bruno Le Maire.
Mais c'est un enjeu de transition écologique aussi.
Et c'est bien au-delà des 35 millions.
Oui, absolument.
Mais en même temps, il est aussi subventionné. Si on appliquait la vérité des prix, le billet serait encore beaucoup plus cher. Puisqu'il y a quand même une part
de subvention publique. Non, il est beaucoup plus cher aujourd'hui parce qu'il y a une très grosse partie de chaque wagon qui est dédiée gracieusement à une partie du personnel.
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel,
parce que vous avez 15 millions de voyageurs par jour à la SNCF,
il y a
250 000
cheminots. On a des billets de train aujourd'hui qui sont plus chers que certains billets d'avion, notamment à destination de Paris.
Vous n'avez aucune restriction. Vous n'avez aucune restriction sur ces billets gratuits.
Bien sûr que c'est un sujet.
Et ça peut être pour vos enfants, votre grand-mère, enfin ça peut être pour toute la famille.
De toute façon, ça restera une prochaine indélébile sur le bilan Jean-Pierre Farandou.
Voilà, donc il y a des sujets.
En Île-de-France, on sait très bien que le transport est subventionné à hauteur de 60-70%.
Oui, mais c'est tout à fait transparent. Voilà.
C'est effectivement, ça restera une tâche sur le bilan de Jean-Pierre Farandou. C'est
très cher.
La refonte de la grille qu'on nous a vendue il y a deux ans avec des prix, des prix accessibles, même en dernière minute, à des prix accessibles.
Mais ce qu'il a précisé durant son audition quand même, c'est que cet accord sur les fins de carrière n'aura pas d'impact sur justement le prix des billets de train.
Oui, oui.
Absolument.
Oui, mais... bon.
Tiens, écoutez, Jean-Pierre Farandou qui n'a pas tout perdu aujourd'hui, parce qu'on disait, il s'est mis dans la poche les syndicats, et notamment Sudrail, qui ne comprend pas du tout cette décision subite du gouvernement. Écoutez, Fabien Villedieu pour Sudrail, tiens.
Bah, sans cet accord, moi je vous le dis très concrètement, les JO, j'en sais rien, mais par contre, les grands départs de ce week-end, là, il y en a qui partent ce week-end, sans cet accord, il n'y avait pas de train.
D'accord.
Mais clairement. Donc d'un côté, on nous dit, faut pas faire grève, faut négocier. Bon, on fait pas grève, on négocie, bah ça va pas quand même. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive à la SNCF, quand on fait grève, on gueule parce qu'on fait grève. Quand on trouve un accord pour pas faire grève, on gueule. Parce qu'on a trouvé pour faire un accord pour pas faire grève et on va jusqu'à virer le patron de la SNCF. Alors Sudrail, notre
faut faire grève pour garder Farandou.
Alors, on n'ira pas jusque là, mais moi je vais vous dire.
Non mais c'est intéressant. Votre Sudrail regrette déjà Farandou.
Moi je vous le dis comme je le pense. C'est pas l'ADN de Sudrail de défendre les patrons. Il y a pas de souci là-dessus. Par contre, ça c'est complètement injuste ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a
subi une injustice.
Bah évidemment, ils sont au courant de tout. Ils avaient validé tout. Mais ils voient que c'est impopulaire, donc qu'est-ce qu'ils font ? Hop, ils se débarrassent du patron.
Vous n'avez pas ça aux États-Unis, Denis, hein, Jacques ? Il n'y a pas ça.
Non, mais bon, les États-Unis, c'est pas parfait non plus. Hein, mais
ça, vous ne voyez pas ça.
Hein, non, ça, c'est rare. Alors, déjà, les gens ne prennent pas le train, donc on a quand même voilà, un petit peu moins sur
voilà. Comment c'est réglé ?
Il va falloir s'y mettre. Hein,
ouais, il faudrait qu'ils s'y mettent, d'ailleurs, ça serait vraiment nécessaire.
On a eu la chance en France d'avoir un réseau qui a vieilli, certes, mais quand même une infrastructure ferroviaire.
Ça reste une interrogation, d'ailleurs, sur le fait que les Américains ne veulent pas prendre le train.
Non, mais ça ne fait pas partie de la culture du
train. Il va y avoir une première ligne à grande vitesse. Petit à petit.
Non, mais tu vois, même sur des trajets, quand tu vas à Washington, New York, où tu peux le faire en 3 heures.
Je l'ai fait d'ailleurs.
Finalement, quand tu calcules ton trajet en avion, arriver avant, attendre, partir, prendre le taxi, en fait, tu mets 3 heures.
Alors que les Chinois,
aussi,
puisqu'on prend un grand territoire, ils arrivent à développer de façon exponentielle.
Et puis ils ont développé aussi, les Asiatiques, des trains à très grande vitesse. Enfin, vraiment, ils ont investi sur ces
infrastructures. Mais les Chinois sont plus préoccupés par le climat, en fait.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais c'est vrai qu'en fait, ils investissent énormément.
On va parler de sujet.
Il va falloir s'y mettre aux États-Unis, Denis.
Aux Chinois
Au train, tout simplement.
Alors, aux Chinois aussi, mais si on veut une géopolitique apaisée.
Maintenant, on a un train qui va du bas de la Floride jusqu'à Orlando et il est massivement plébiscité. Par contre, parce que se taper un Miami-Orlando, c'est 4 heures de voiture et puis sur place, c'est un enfer. Maintenant, on a un train qui va directement, qui est impeccable, pas trop cher. Mais alors là, par contre, chez nous, le yield management, c'est à fond. C'est-à-dire, il y a un week-end, un grand week-end, les prix peuvent quadrupler, puis le lendemain, ils retombent à 10 dollars. Donc c'est...
Oui, mais il y a peu de billets gratuits, qu'il n'y a pas de grève.
Juste un point, c'est que dans ce qu'on a entendu là, effectivement, on peut comprendre que la SNCF a acheté la paix sociale.
Voilà, c'est ça. La paix sociale a un coût.
C'est pas faux. Ouais. Sauf que, et d'ailleurs, Jean-Pierre Farandou a dit cet après-midi, j'ai été critiqué parce que j'ai évité la grève. Sauf que si elle a acheté la paix sociale, elle l'a fait à un coût raisonnable, dans un cadre maîtrisé et intelligent. C'est-à-dire que c'est moins pire ou c'est mieux que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007, qui nous a vendu une réforme des régimes spéciaux de retraite, qui en fait a été payée tellement cher qu'elle en a annulé tous les bénéfices.
C'est vrai.
Ça n'est pas le cas là.
On rappelle que Jean-Pierre Farandou a augmenté de 20% par an le chiffre d'affaires de la SNCF, qui a aujourd'hui 2,5 milliards de cash flow libre.
Mais on revient quand même bien à la question d'un moment donné. C'est pas parce qu'à chaque fois qu'ils vont menacer de bloquer un week-end, il va falloir leur donner un avantage qui coûte 30 millions, 300 millions, c'est inacceptable.
C'est le sport national, Denis.
Voilà. C'est comment la petite phrase de Sarkozy à l'époque, quand il y a une grève, on s'en aperçoit plus maintenant, c'était ça.
Voilà.
C'est quand il travaille que c'est surprenant.
On s'aperçoit encore, voilà. Allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h33 sur BFM Business, les experts du soir avec Denis Jacquet, Isabelle Bordry et Emmanuel Kessler. On parle maintenant du président chinois qui vient de terminer sa visite en France aujourd'hui. Ça s'est terminé par un déjeuner en altitude à 1800 mètres dans les Hautes-Pyrénées. Alors déjeuner au grand air pour tenter de trouver quelques points de consensus, notamment évidemment sur les questions commerciales.
Bon, il n'y a pas eu grand-chose. Alors on le disait, les Chinois ont fait quelques concessions. Ils ont accepté d'ouvrir un peu plus leur marché aux produits agricoles, la volaille, le porc, les vins haussés, mais sur d'autres sujets comme la viande bovine, le cognac, là ça reste encore très très flou, ça n'a pas vraiment avancé. Globalement, qu'est-ce que vous retenez de cette courte visite? Il y avait un mot qu'avait à la bouche sans cesse Emmanuel Macron, c'est celui de réciprocité. On n'a pas vraiment avancé sur cette question de réciprocité sur le
non, et puis il y a von der Leyen qui a été extrêmement stricte en disant
plus qu'Emmanuel Macron, quand même.
Beaucoup plus qu'Emmanuel Macron, en disant nous sommes là pour protéger la sécurité de l'Europe et son économie. Donc elle était extrêmement claire. Que dire ? Il y a eu les voitures électriques, qui est un vrai sujet. Mais les voitures électriques, force est de constater que la Chine, en 30 ans, est devenue le producteur, le premier producteur mondial. Qu'il a choisi il y a 30 ans, il a fait le choix, en fait, la Chine a fait le choix de la voiture électrique. Et à la même époque, l'Union européenne décidait d'arrêter la voiture thermique.
Voilà, on lui a déroulé le tapis rouge.
Voilà, mais c'est l'Union européenne qui a décidé d'arrêter la voiture thermique, alors qu'à l'époque, nous étions, et nous le sommes toujours, les premiers constructeurs automobiles thermiques. Donc c'était vraiment un choix. Donc c'est un pays qui est en pleine transformation, qui arrive en 30 ans à créer une filière absolument gigantesque, à devenir le premier producteur. Donc ça force le respect. Sur les partis politiques des droits de l'homme, il n'a pas été très prolixe, mais en ce qui concerne l'Ukraine, le fait qu'il y ait une paix pendant la trêve olympique, tout ça a été plutôt positif. Après, les Chinois ne disent jamais oui ou toujours oui et ensuite non. C'est très compliqué d'avoir des accords très clairs avec les Chinois. Donc ce qu'il en ressort, c'est une espèce de cordialité, de convivialité entre deux présidents.
Quelques contrats pour être poli, mais rien
de... Quelques contrats. Alors moi, j'avais compris que le cognac, ça s'était un peu débloqué.
Alors ça, c'est un peu détendu, mais c'est pas la panacée.
C'est ce que j'avais compris. Voilà, l'important, c'est au moins d'être dans la discussion.
Oui, alors dans la discussion, vous soulignez le fait qu'Ursula von der Leyen a été beaucoup plus ferme dans son discours qu'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron a une balance commerciale complètement déficitaire à l'égard de la Chine, 40 milliards d'euros, et puis du fait de notre tissu industriel, on dépend largement de la commande publique chinoise. On a besoin qu'ils achètent nos trains, nos avions, nos centrales nucléaires, donc c'est compliqué d'avoir un discours de fermeté vis-à-vis de la Chine, Denis.
En fait, la seule chose dont nous protège Ursula von der Leyen, dont je déteste prononcer le nom, c'est juste d'avoir un avenir. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres de l'investissement technologique dans le monde, l'Europe n'existe plus. Je veux dire, on est à peine un tiers de la Chine, on est à peine un quart des États-Unis. On n'a plus aucune existence sur l'investissement dans les secteurs technologiques. Donc sur l'investissement non technologique, on fait encore à peu près jeu égal avec l'Asie aujourd'hui. Sur les investissements non technologiques, je regardais les chiffres la semaine dernière, mais c'est effrayant, nous n'existons plus. Et pour tous ceux qui accompagnent, puis il y a une équipe, bref.
La Mistral quand même en Europe, en France.
Oui, mais comment bâtir la stratégie de l'intelligence artificielle sur une société qui lève au mieux 100 ou 200 millions. Aujourd'hui, OpenAI, ça lève par 10 milliards.
Non, mais bien sûr, mais elle démarre.
Oui, mais à l'échelle de l'Europe, on devrait avoir 300 OpenAI. Pas 300 Mistral, lapsus révélateur. Ouais. Mais aujourd'hui, on est à peine un tiers et ça diminue tous les ans. Je vous rappelle quand même qu'à Davos, au mois de février, Ursula von der Leyen se laissait aller à cette petite phrase de dire « L'intelligence artificielle, finalement, c'est peut-être un secteur important. » Je veux dire, on se dit « Mais elle était quelqu'un, elle c'est une momie, on l'a réveillée, elle dormait pendant 30 ans. » Bon, aujourd'hui, la Chine, c'est très clair. Depuis Deng Xiaoping, il a dit en gros... Entrepreneur, enrichissez-vous. Ce qui était quand même une phrase que même un politique de droite n'a jamais prononcée en France.
Ouais. Sauf qu'après, il les met en prison.
Peu importe, l'économie s'est développée.
Et donc, il les met au port.
Et on a commencé à faire des plans quinquennaux. Et si on les observe tous depuis 30 ans, ils ont presque tout été réussis et menés à terme, voire même au-delà des espérances. La deuxième construction, c'est celle de la route de la soie, qui est quand même une réussite extrêmement remarquable pour eux.
Si Jinping part en Hongrie et en Serbie dans la foulée.
Et finalement, quand il arrive aujourd'hui, c'est l'ogre qui regarde les nains. Et aujourd'hui, il y a depuis 2 ans des réunions un petit peu secrètes entre la Chine et les États-Unis. Ils ont fait un Yalta sur le quantique et l'intelligence artificielle. L'Europe n'a jamais figuré un seul instant, même dans les discussions, même pendant le café ou le cognac, hein, si éventuellement il y en avait encore.
Enfin, ça ne se passe pas si bien que ça. Vous en parlez, Guillaume, dans votre journal. La Chine intente un procès justement aux États-Unis sur le sujet TikTok avec Biden.
Oui, et puis il y a Taïwan aussi.
Et puis il y a Taïwan, absolument.
Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a deux investisseurs massifs sur les secteurs qui vont donner la domination au monde. Et aujourd'hui, il n'y a que la Chine et les États-Unis. Et après, en termes d'innovation, vous regardez ramener au PIB ou ramener aux individus, c'est-à-dire la tête de chacun 1 l'investissement dans le monde, c'est Israël numéro 1, Corée du Sud numéro 2, 3 et 4 c'est Chine. L'Europe n'est même pas, voilà, n'existe pas. Donc nous n'existons plus et nous n'existerons plus sans un investissement majeur sur ces sujets. Et est-ce que vous le voyez venir aujourd'hui ? Chaque fois qu'on décroche un 50 milliards par-ci ou par-là, c'est pour l'Ukraine, pour l'armement et tuer des gens, mais jamais pour assurer leur
refus. Franchement, on a surtout démarqué par la sortie d'Ursula von der Leyen plus que par les propos d'Emmanuel Macron sur ces 36 heures. Moi, je trouve personnellement. Vous dites quoi ? Que l'Europe commence à sortir un peu de la naïveté ? Vous dites, bah non, de toute façon, l'Europe ne peut pas sortir de la naïveté et de la puissance.
Bah, que elle régule, elle ne fait pas, elle ne fait pas.
Elle ne va, elle ne parle pas d'une seule voix. Scholz n'est pas venu. Scholz était invité, il n'est pas venu.
Il y a eu un contrat de filière là qui a été annoncé pour la voiture électrique. Mais en réalité, il laisse perdurer malgré tout une dépendance par rapport à l'industrie chinoise. Par exemple, sur la question des batteries, c'est-à-dire que si on fabrique des véhicules, on est obligé quand même de pour les matières premières et pour les batteries elles-mêmes, même si on va développer des usines en France, voilà, on reste encore très dépendant des Chinois. Peut-être aussi au-delà de cette une remarque politique. Moi, c'est vrai que quand on a vu la Chine émerger, une classe moyenne vraiment qui s'enrichit en Chine, on pouvait penser, parce que le libéralisme, dans sa pureté, c'est économique et politique. Et donc, on pouvait penser que cette ouverture ou cette accélération, parce qu'au fond, d'un point de vue économique, c'est un système qui fonctionne de façon libérale. Libérale étatique, mais libérale.
Bien sûr.
Et ça ne s'est pas du tout accompagné, je dirais presque au contraire.
Oui, pour le moment, oui.
Parce que quand des gens s'enrichissent, ils souhaitent avoir plus de liberté. Et c'est vrai que ce qui peut interroger, c'est le fait qu'on ait un régime toujours aussi autoritaire. De ce point de vue, la visite de Deng Xiaoping, la France paraît bien timide dans ses demandes en matière de droits de l'homme. Enfin, même si on nous dit qu'il ne faut pas que ça soit sur la place publique, mais que ça se passe entre quatre yeux, entre les deux présidents. Bon, on a l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et donc, c'est vrai que ça interpelle de voir ce régime de plus en plus puissant, avec une classe moyenne qui s'enrichit et qui parvient à conserver, à gagner de la puissance et de l'influence en ayant un régime toujours aussi dictatorial et aussi niant à ce point les droits humains.
Mais il y a un vrai sujet, c'est ce que vous évoquez, c'est la création d'une élite. Un Chinois qui s'enrichit n'a qu'un objectif, c'est mettre son argent en Suisse. Parce qu'il a l'angoisse que le gouvernement chinois lui prenne. Donc effectivement, c'est l'intégralité, c'est la société dans son ensemble qui grossit. Mais dès qu'il y a un milliardaire, un entrepreneur qui sort un peu la tête du lot, pouf, il est mis de côté. Et donc c'est un vrai sujet. Alors, compte tenu de la taille du pays, ça ne se ressent pas en termes économiques, mais quand vous allez en Chine, c'est le vrai sujet, c'est vous gagnez de l'argent, vous le mettez immédiatement en Suisse ou en Europe, ou à Gibraltar, ou etc.
À Singapour.
Ou à Singapour, voilà. Et vous faites en sorte que vous ayez un double passeport.
Oui, absolument. Et il me semble, en tout cas, que ce modèle-là arrive à sa fin. De la même manière qu'on a bien vu, finalement, avec toutes ces mesures prises à la lumière de la pandémie, qui était quand même d'une atrocité sans nom en termes justement de droits de l'homme, pour la première fois, et ça c'était quand même historique, il y a eu des soulèvements et des gens qui défilaient dans la rue. Donc Xi Jinping, il a bien conscience de ça, et on voit d'ailleurs qu'il y a une petite inflexion dans la manière dont il dirige le pays quand même.
C'est la première fois qu'il y a un dirigeant qui est d'abord beaucoup plus impérialiste que les précédents. C'était quand même pas dans la tradition chinoise millénaire. C'était vraiment plutôt centrifuge que centripète. Pas très joli comme mot, mais désolé. Mais donc, il a rompu avec une tradition qui n'était pas celle de la Chine, qui reste, restons entre nous, mais qui a compris qu'à un moment donné, malheureusement, seule la puissance du commerce mondial lui permettait de sortir sa classe pauvre vers la classe moyenne et moyenne vers les enrichissements. Et en fait, aujourd'hui, il y a une espèce de deal entre tu peux devenir riche, à partir du moment, déjà, tu critiques pas le gouvernement chinois, donc déjà, on peut te laisser relativement tranquille. Ça a coûté un peu cher aux dirigeants fondateurs d'Alibaba pendant un certain temps, même s'il a réagi, etc.
Mais sa boîte est
toujours là. Mais ils peuvent quand même extraire de l'argent à l'extérieur, mais dans une limite acceptable. Et donc, mais en ce moment, la Chine, notamment, fait tout le contraire de ce que fait l'Occident, États-Unis et Europe, c'est qu'elle investit sur les territoires moyens, c'est-à-dire ceux qu'on abandonne, nous, aujourd'hui, chaque jour. Ils investissent massivement dessus, donc ils vont réussir sur le très long terme. Le court terme, ça n'existe pas en Chine, c'est ça qu'il faut retenir. Le court terme, ça n'existe pas. La minorité, ça n'existe pas.
Bien. Donc, le temps long,
C'est le temps long et le bénéfice de la collectivité.
De TikTok et du temps long.
Exactement.
Oui, exactement. C'est l'immédiateté de TikTok. C'est la dichotomie chinoise.
Voilà pour cette visite de Xi Jinping.
Le paradoxe chinois, le yin et le yang.
Voilà pour cette visite de Xi Jinping qui ne restera pas dans les annales, apparemment. Donc, il ne tiendra pas grand-chose, évidemment.
Alors, justement, puisqu'on parle du différend franco-chinois sur les voitures électriques, il se trouve qu'hier, alors que le président chinois était à Paris, l'État signait un nouveau contrat de filière avec l'ensemble de la profession automobile.
Et qui confirmait des objectifs alors qu'ils peuvent paraître ambitieux. Vendre 800 000 véhicules électriques en 2027, c'est dans 3 ans, 300 000 l'an dernier, et produire 2 millions de véhicules en 2030. Roland Lescure est venu nous voir ce matin sur BFM Business, il assume parfaitement cet objectif. Écoutez.
Il faut accélérer, effectivement. Accélérer à la fois d'ailleurs du côté de la vente et du côté de la production. Ça a un peu baissé, mais en revanche, la part des véhicules européens dans les ventes de véhicules électriques a beaucoup monté, parce que vous le savez, depuis le 1er janvier, on réserve le bonus automobile aux véhicules qui sont faits suivant des bonnes règles environnementales et donc faits en Europe. Et ça, c'est un vrai succès. Il faut continuer, il faut accélérer. Au fond, aujourd'hui, on fait face à une révolution industrielle, écologique et sociale dans le domaine de l'automobile. Il faut produire davantage, il faut produire vert, il faut produire en France de manière à ce que ceux qui travaillent aujourd'hui dans le moteur thermique puissent travailler dans le moteur électrique. Et en plus, il faut faire ça pas trop cher pour que les Françaises et les Français puissent l'offrir.
Elle a raison, alors que vous avez beaucoup de comptes. Non, mais ces chiffres me donnent le tournis, moi. Ouais. 800 000 véhicules électriques vendus en 2027, c'est dans 3 ans.
Voilà, alors mais qu'on en a vendu 1,8 million cette année. C'est-à-dire, c'est, voilà.
On 300 000 l'an dernier. 300 000 l'an dernier.
Non, mais le sujet, c'est quand même de séduire la clientèle, parce qu'il y a quand même beaucoup de déceptions. Il y avait une grosse attente, et il y a eu un gros engouement. Les premières voitures qui ont été mises sur le marché, il y a eu beaucoup de ventes, qui ont d'ailleurs surpris à l'époque les constructeurs. Et depuis, ça s'est ralenti. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'effectivement, le coût du diesel et le fait que la consommation diesel finalement est très faible, même s'il y a eu une augmentation, qu'il y a des contraintes quand vous êtes à la campagne, il n'y a pas des bornes partout aujourd'hui, et une voiture électrique, ça coûte cher à l'achat, malgré les bonus, malus, etc. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est effectivement l'autonomie et le marketing client.
C'est-à-dire alors justement, les chiffres, équipements du territoire en termes de bornes, ça c'est quand même aussi la grande promesse du gouvernement. Mais ceci dit, quand on regarde le moment où la courbe s'inverse, sur les achats, c'est le moment où les aides et les accompagnements publics baissent. Et ça, d'ailleurs, pas qu'en France, dans l'ensemble des pays européens, Denis.
Bon, déjà, le problème du véhicule électrique, c'est de savoir dans quel pays ils sont produits et par quelle énergie. Si vous les produisez en Allemagne, ils sont toujours produits au charbon. Donc, le bénéfice écologique, est quand même, il reste quand même relativement
quand
limité.
Quand on les importe de l'autre bout du monde, de Chine, mais c'est encore pire.
Avec du charbon aussi.
Donc, pour l'instant, avant de rentabiliser écologiquement un véhicule, selon les pays, ça peut aller de 70 000 à 100, 120 000 km, 150 000 pour certains pays. Donc, c'est le premier point. Le deuxième, ce que disait Isabelle, c'est l'infrastructure. Enfin, à nouveau, moi, j'étais testé, j'avais pas encore eu de véhicule électrique l'été dernier, un véhicule dont je tairai le nom qui est américain avec un type extrêmement connu qui a racheté Twitter. Et donc, j'ai fait Paris-Normandie parce que ma maman est en Normandie. Je me suis arrêté deux fois pour charger. La première fois, je me suis arrêté sur la borne de la 13.
200 km ?
Sur les 250 km. Les 5 bornes, il y en avait 4 qui marchaient pas.
Oui, c'est
voilà. Ensuite, je suis allé à Honfleur. Non, il faut sortir et faire 15 km pour aller trouver un superchargeur.
Oui, alors aujourd'hui en France, on a 100 000 bornes. Et on est censé arriver à 400 000 d'ici 2030.
Donc le problème est un problème. Donc le premier, c'est par quoi on produit. Le deuxième, c'est l'infrastructure. Et le troisième, on est un pays de 36 000 communes qui sont essentiellement celles où je suis né, c'est-à-dire des communes de quelques milliers d'habitants.
Ouais.
Alors là, quand vous leur parlez d'un superchargeur, ils disent quoi, c'est une nouvelle série à la télé. Enfin,
ça coûte cher une borne électrique. Ça coûte cher à installer, ça coûte cher à entretenir.
Est-ce que le pouvoir d'achat des gens va permettre de le faire? Est-ce que disait Audrey très justement?
C'est peut-être aussi pour ça que ça a marché au début, parce que vous aviez une classe supérieure, on va dire, des gens qui pouvaient s'acheter des voitures, mais il ne faut pas oublier que acheter une voiture neuve,
plein un peu de sa clientèle,
Je sais pas, 80% c'est des plus de 50 ans qui achètent une voiture neuve. La plupart des gens achètent des voitures d'occasion. Il n'y a pas encore, je crois que c'est un marché de l'occasion d'électricité. Puis alors maintenant que les plus technophiles et qui sont aussi ceux qui sont les plus aisés ont leur voiture électrique, il faut aller convaincre des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est inférieur. Et c'est là que ça devient difficile et que le critère prix, il pèse, puisque oui, mais... malgré les aides, ça reste quand même assez cher.
Alors, on croit que c'est par le marché de l'occasion que l'usage du véhicule électrique va se démocratiser. Ouais. Je ne suis pas certain de ça, hein. C'est pas évident.
Hein. C'est pas évident parce qu'il va falloir voir comment elles résistent à l'occasion, ces voitures.
Mais il y a aussi le sujet des accidents et du coût de réfection et de rénovation d'une voiture, de réparation d'une voiture. Ouais. Et ce qui va avoir des impacts sur les assurances. Parce qu'en fait, ce sont voitures qui sont brillamment assemblées, et notamment celles de Tesla, avec que deux ou trois, pour diminuer les coûts de main-d'œuvre, deux ou trois morceaux. Et donc, dès que vous avez effectivement un problème, ça crée des réparations absolument gigantesques. Donc, en fait, il faut réinventer l'infrastructure, comme tu le disais, les systèmes d'autonomie, d'énergie verte et effectivement comment elles sont produites. Et puis aussi, tous les aspects assurantiels derrière qui aujourd'hui ne sont vraiment pas
évidents. Et puis il faut aussi mettre en place des mesures d'impact, puisque là on part du deuxième contrat filière, mais qui fait suite au premier signé en 2019. Quel en est le bilan, puisque aujourd'hui on le disait, la production qui s'effondre et les ventes aussi,
mais y compris sociales, parce que discuter 5 minutes avec le patron de Norauto ou d'autodistribution, eux, ils se voient en faillite dans moins de 20 ans. C'est-à-dire, il y a 50 fois moins de pièces automobiles, donc du coup, on va vendre quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces salariés ? L'entretien,
le métier des garagistes change complètement, parce qu'aujourd'hui, il faut maîtriser un ordinateur et plus une mécanique. Ouais. Mais bon, cette révolution, elle est quand même très intéressante, parce qu'on a rarement vu un... on sort de la civilisation de l'automobile, mais du thermique.
Elle est d'une rapidité, surtout, c'est ça.
Elle est très rapide, et le 20e siècle sera celui de l'électrique. Ouais. Après, le bilan écologique de tout ça, il faudra quand même le dresser, de ce choix qui a été fait, parce que bien sûr, il y a une décarbonation au moment de la circulation quand on roule, mais sur la source
c'est
de l'électricité,
un autre débat,
sur
mais
le,
tout
recyclage,
aussi important,
hein. Le recyclage des matériaux
des batteries,
qui ont servi à la fabrication, sur la question de l'utilisation et de surusage des terres rares, du recyclage des batteries.
Et notre dépendance vis-à-vis de la Chine par rapport aux terres rares.
On ne sera pas là pour le voir, mais peut-être qu'il faudra encore une nouvelle révolution automobile.
Bon, vous allez avoir une minute avant vos avis pour parler de Boeing, parce qu'on a vu qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte par l'autorité américaine de régulation pour savoir si le groupe avait bien effectué ou avait correctement effectué des inspections requises sur le fameux Dreamliner 787. Mais où va cette boîte, Denis ? Où va cette boîte ? Vous avez 30 secondes. Hein.
C'est là où, à un moment donné, qui sont parfois un peu méchants avec la France ou l'Europe, mais on se dit, heureusement que j'ai Airbus, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, Airbus, la supply chain.
On se dit ça aux États-Unis, heureusement qu'il y a Airbus, quand même.
Non, eux, ils ne sont pas très contents. Mais là, c'est fantastique. Quand on voit la qualité exceptionnelle de la supply chain et de l'organisation d'Airbus, dans le monde aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux, quoi. Donc Airbus aujourd'hui n'a pas su organiser ses sous-traitants, la gestion de leur qualité, leur interconnexion et le système de contrôle de qualité des défauts. Et c'est là où on voit toute l'excellence, pour une fois, l'excellence à la française, enfin franco-allemande, mais néanmoins.
On se flagelle sur l'Europe, versus les États-Unis, où vous-même vous étiez le premier, mais là, pour une fois, on a quand même un vrai succès européen.
Cela dit, c'est une faillite de la gouvernance de Boeing.
Bien sûr.
Et Boeing, c'était le premier constructeur le plus innovant, avec une qualité absolument incroyable, qui a mis sur le marché des avions qui sont aujourd'hui et qui restent encore des avions mythiques pour tous les fans de l'aéronautique. Donc c'est une faillite de la gouvernance qui s'explique très bien d'ailleurs, qui est très documentée parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, c'est vraiment un use case, et qui en fait remonte à une fusion malheureuse, qui est la fusion de Boeing avec McDonnell Douglas. Et ces équipes-là qui effectivement ont été plus attentives aux cours de bourse qu'au protocole de sécurité, qui ont mis à plat cette société en 20 ans.
Mais c'est vrai que Boeing avait déjà eu beaucoup de mal à remonter la pente, rappelez-vous, avec les crashs de 2018 et 2019. Il y a eu ensuite cette commission au Sénat où plusieurs employés, plusieurs ingénieurs de Boeing témoigné de tous les problèmes sur la chaîne de production, etc. Ce qui avait d'ailleurs mené le directeur général à poser sa démission. Ouais. Donc en effet, un avenir un peu incertain.
Et beaucoup de questions autour de ces deux lanceurs d'alerte qui sont morts quelques semaines après, évidemment. C'est beaucoup de questions. Voilà pour ce dossier. Boeing. Ouais. Allez, moins de 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time comme tous les soirs. Vos avis, Coup de cœur ou coup de gueule sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette émission. Isabelle, voulez-vous commencer? Allez, 30 secondes.
Alors moi, j'ai un vrai coup de gueule, c'est la décision qu'a pris Stellantis de licencier ses ingénieurs en France pour aller recruter des ingénieurs au Brésil et en Roumanie.
Ah,
on parlait tout à l'heure de la consolidation d'une filiale, du fait effectivement de porter les normes de sécurité, de protection, de gouvernance dans des industries qui sont, sur laquelle la sécurité est absolument essentiel. Et là, tout d'un coup, Stellantis, qui par ailleurs se bat pour les droits de douane, va finalement arrêter de recruter des ingénieurs en France.
Non, mais c'est vrai qu'il faut le dire, Carlos Tavares, contrairement à Lucas Demeo, ne joue pas du tout la carte France. Hein.
Ouais. Ça, c'est clair. Okay. Emmanuel Kessler, 30 secondes, mon cher Emmanuel, c'est à vous.
Alors, moi, c'est pour un coup de cœur, pour fêter un anniversaire. C'est jour pour jour, le 200e anniversaire de la 9e symphonie de Beethoven.
Ah, formidable.
Ce soir, d'ailleurs, une soirée spéciale sur Arte. Je ne veux pas faire de la Arte sur BFM, mais enfin, on peut quand même le dire. Elle a été créée au Kärntner Tortheater de Vienne le 7 mai 1824. Et elle sert d'hymne européen. Oui. Le 9, ça va être la journée de l'Europe.
Oui.
Il y est dit « Alle Menschen werden Brüder », tous les hommes seront frères. Donc c'est un beau message. Et puis c'est la marque du génie, quoi. Ce type-là a réussi à créer une œuvre qui est
phénoménale.
Qui est phénoménale.
Vous nous rappelez la mélodie? Ou pas?
Allez, Denis Jacquet, 30 secondes pour finir. Allez.
Moins drôle, désolé. Moi, je retiens un chiffre. D'abord, l'ONU a été créée notamment pour faire en sorte qu'il y ait une forme de paix dans le monde suite au génocide qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. En 7 mois, il y a eu 9 assemblées générales et conseils de l'ONU contre Israël. Dans le même temps, sur le Soudan, en 3 ans, il n'y en a pas eu une seule. Sur l'Iran et le meurtre des femmes, pas une seule. Le Pakistan qui va renvoyer des Afghans qui vont se faire trucider par le régime afghan, pas une seule. Donc je trouve l'attitude de l'ONU aujourd'hui face à l'État juif, qu'est-ce que ce soit qu'on pense de la guerre de Gaza, absolument lamentable.
Voilà pour le coup de gueule ce soir de Denis Jacquet. Bah, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup à tous.
Heureusement
les trois.
Qu'il y a la 9e symphonie.
Voilà, on aurait dû inverser.
Vive l'Europe. Vive l'Europe.
Bah oui, il y a un peu d'espoir dans ce monde.
L'actu est ainsi faite. Merci beaucoup, Beethoven. Denis Kessler.
Non, Emmanuel. Pas Denis.
Alors, Emmanuel Kessler et Denis Jacquet.
Mais bientôt, Denis Kessler.
Denis Jacquet.
Denis Kessler, le pauvre, en plus, c'est pas ce monde.
Et Isabelle Bordry, pardonnez-moi. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur BFM Business, 19h56. C'est fini pour ce soir.
Et oui, et merci à vous, Guillaume Paul. Alors, en effet, c'est terminé, mais pas de panique, puisque l'émission et le débat sont à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et puis, on se retrouve demain.
Et on se retrouve, bien sûr, demain, 18h, pour de nouvelles aventures en direct. Très bonne soirée. Tekkenco, bien sûr, dans un instant.
Bonne soirée
à toutes ces équipes.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.